L'austérité, c'est un mot très à la mode qui, étrangement, ne m'évoque pas vraiment la politique de rigueur qui sévit dans le monde entier ou l'affiche de campagne d'Alain Juppé, mais les robes de ma grande-tante Marie, ces robes de dentelle noire ou bleu marine au col remonté que j'associe, pauvre de moi, aux réprimandes, aux signes de croix ou aux privations de dessert, carrément austère. Ma grande-tante Marie, plus encore qu'Alain Juppé ou que la politique d'austérité, c'était la fourmi de la fable, cette redoutable Marie morale, vous savez, pas prêteuse pour un sou, qui, quand vous aviez le malheur de lui demander un bout de gâteau, vous répondez « Que faisiez-vous en temps chaud ?» Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'elle a eu des conséquences sur ma croissance, ce serait un peu gonflé, mais quand même, force est de constater que j'ai souffert de frustration et d'anxiété, que mon développement physique a quelque peu stagné, et qu'aujourd'hui je suis pas bien grand, je suis désolé, c'est tout le problème avec l'austérité. Il faut songer aux conséquences, le blocage à tous les niveaux, et puis le repli, tu parles d'un plan de vie.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Rassurez-vous, mon invité d'aujourd'hui n'a rien d'austère. Il est même tout le contraire, lui dont l'ironie si délicieuse est tant appréciée des Français. Il suffit de citer Testament à l'anglaise, prix du meilleur livre étranger il y a 20 ans, ou alors La Maison du Sommeil, prix Médicis étranger, ou encore La Vie très privée de Monsieur Sim, récemment adapté au cinéma avec Jean-Pierre Bacri. Son nouveau roman, Le 11e, vient de sortir dans une belle traduction de José Camoun et il est sobrement intitulé Numéro 11, un roman qui prend le pouls du Royaume-Uni d'aujourd'hui. Bonjour, Jonathan Coe.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici.
Merci beaucoup d'être là. Pourquoi, à votre avis, ce mot austérité est-il si en vogue aujourd'hui?
I'm not sure in fashion is the right word. It's been a very current word. A word we've heard a lot.
Je ne sais pas si le mot à la mode est vraiment approprié. C'était un mot très courant depuis la crise bancaire de 2008. Lorsque les banques n'ont plus d'argent, l'économie a commencé à se contracter. Et puis, la richesse que l'on pensait avoir, eh bien, c'est avéré qu'elle n'existait pas. Elle s'est évaporée. Et on nous a dit, le gouvernement nous a dit qu'il fallait se serrer la ceinture. Et qu'on ne pouvait plus avoir jouir des luxes que l'on avait auparavant. Un programme de fermeture des services publics a commencé, fermeture des bibliothèques, fermeture des services publics. Et il a semblé que le poids de l'austérité n'a pas été partagé également. Et c'est ce qui a mené au ressentiment et à la colère britannique que mon livre décrit.
Face à ça, les Anglais, Jonathan Coe, effectivement, ils protestent ou alors ils se résignent.
Mon livre a été publié au Royaume-Uni l'année dernière. J'ai terminé de l'écrire il y a 18 mois. Et les événements se sont produits très rapidement depuis au Royaume-Uni. La forme prise par les manifestations contre l'austérité a surpris tout le monde. Ce n'était pas contre le gouvernement, puisque le gouvernement conservateur a été réélu avec une majorité extrêmement importante. Et puis, à la place, on a voté pour le Brexit, pour quitter l'Union européenne. Mais fondamentalement, c'est une expression de la même colère, de la même frustration contre l'establishment et ce qui est perçu comme étant l'élite du pays.
Alors, vous parlez des bibliothèques. On a le même problème en France aujourd'hui. Ces économies, elles se font sur des lieux comme les bibliothèques, en l'occurrence, qui ferment au Royaume-Uni faute d'argent public. Votre livre le raconte. Quand on ferme une bibliothèque, un lieu de connaissance, d'éducation, de sociabilité, quel signal est-ce qu'on envoie? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Jonathan Coe?
Ça envoie un signal et les gens au pouvoir ne comprennent pas ce qui est essentiel dans la société. Une des choses dont parle mon livre, c'est la monétisation des valeurs, la financiarisation des valeurs que l'on appelle spirituelles ou intellectuelles. L'idée que l'on peut trouver aussi dans la culture universitaire pour l'instant, qu'un sujet, qu'une discipline, qu'un champ de savoir n'a pas de valeur sauf à être financiarisé, transféré, traduit en termes économiques. Bien sûr, c'est une définition extrêmement étroite de ce qu'est la culture.
Mais dans ce contexte, Jonathan Coe, on n'a pas tendance à se dire « c'était mieux avant ».
Well, another theme of my book.
Autre thème de mon livre.
Is the danger of nostalgia.
C'est le danger de la nostalgie.
And you know the crisis we're facing at the moment.
Et
I think
la crise contre laquelle on se bat en ce moment.
We're presented with the failure of an economic system which we've
la peur d'un système économique dans lequel on a cru pendant les 40 dernières années et pour lequel, pour l'instant, personne n'a de solution pour sortir de la crise. Donc il y a une tentation de faire tourner les aiguilles de la montre à l'envers. Et, par exemple, on a ce retour vers un socialisme à l'ancienne avec Jeremy Corbyn, type de nostalgie aussi pour un Royaume-Uni des années 50, qui, en fait, a mené au Brexit.
C'est ce que dit l'un de vos personnages, qui est un professeur d'université, qui s'appelle Laura, dans votre nouveau roman numéro 11, effectivement. Quel monde est-ce que vous avez l'impression de laisser aux générations futures, vous, Jonathan Coe?
Vous savez, j'ai deux filles qui sont des adolescentes, des jeunes femmes, très jeunes filles, très jeunes femmes. Je me pose cette question sans cesse. Elles vivent dans un monde de matérialisme qui était totalement inimaginable il y a 30 ou 40 ans.
They're stimulated, they're entertained, they live a comfortable life.
Divertissement. We're starting to ask leur vie est très confortable. On commence à se poser des questions. Sur quoi c'est fondé? Quelles sont les fondations économiques du confort sur lequel elles vivent? Est-ce que c'est solide? Et quelles sont les valeurs culturelles que cela implique?
Le livre
tente de soulever ces questions sans fournir de réponses très convaincantes à la fin.
Mais ça reste un livre, en l'occurrence. Est-ce que le monde de demain, ce sera un monde sans livres?
Je crois que ça va prendre du temps avant de voir un monde sans livres. L'influence du mot écrit diminue, se rétrécit sans cesse, tout comme notre attention se rétrécit en tout petit bout en raison de l'influence de l'Internet. Mais pour moi, un roman peut fournir un antidote à cette façon de penser. Ça fournit une continuité de l'imaginaire et dans lequel un lecteur peut s'immerger.
Being caught up in the personal vision of one particular writer over the course of 300 or 400 pages.
On peut être pris par la pensée d'un seul écrivain pendant 3 ou 4 heures d'affilée.
An increasingly
je crois
rare and valuable thing, I think.
C'est quelque chose de rare, de très très rare de plus en plus.
You have to remember that a book is a very
simple thing to write. Il faut se souvenir que un livre, c'est très facile à écrire. Il faut être soi-même, un endroit, un petit bout de papier, un crayon.
En
termes de culture, de production culturelle, ça ne va pas mourir avant longtemps.
Alors parlons de livres, justement, Jonathan Coe, dans le journal de la culture que l'on consacre aujourd'hui, parce que vous êtes là, à la littérature, bonne vivante, réjouissante, nature. Que se passe-t-il donc dans le monde littéraire, aujourd'hui, vendredi 4 novembre?
Je suis très heureuse, très très émue d'être reconnue par mes pairs, bouleversée.
Le prix littéraire ne renseigne pas énormément sur la qualité du livre, et d'autres auraient pu l'avoir autant que moi, mais en tout cas, c'est joyeux pour mes amis, il fait beau.
Alerte, grand remplacement, n'en déplaise à Renaud Camus, Éric Zemmour et toute la fachosphère. Les prestigieux prix Goncourt et Renaudot ont été attribués hier à Leïla Slimani et Yasmina Reza. La jeune auteure franco-marocaine invitée d'Ali Badou ce matin raflait la mise pour sa cruelle et glaçante chanson douce, tandis que le Renaudot a consacré notre première invitée littéraire de l'année, Yasmina Reza, pour sa Babylone à la grâce tragique et au verbe féroce, un palmarès qui célèbre l'audace et le talent, autant que la diversité et la féminité. Total respect. L'édition mérite une bonne correction, même à domicile. On n'est pas docile. Voici quelques-uns des slogans que l'on pouvait lire sur les banderoles des lecteurs correcteurs qui manifestaient hier devant chez Drouan en marche de la remise du Goncourt et du Renaudot. Après une pétition mise en ligne en mai dernier, ces acteurs de l'ombre de la chaîne du livre se sont rassemblés pour protester contre la précarisation de leur situation, notamment à cause du recours systématique à l'auto-entrepreneuriat. Résultat de l'opération, tous les jurés ont fini par signer. Décidément, ils ont bon sur toute la ligne cette année. Le Poor Lonesome Cowboy dégaine un nouvel album 70 ans après sa création par le regretté Morris. Lucky Luke reprend du service. Au pinceau, on trouve le dessinateur HD et au stylo, le scénariste Jules, également créateur de la série Silex and the City. Et c'est rien de moins qu'un retour en terre promise pour l'homme qui tire plus vite que son ombre, qui doit cette fois-ci guider une famille juive fraîchement débarquée d'Europe de l'Est à travers tout le Far West, quand le western rencontre Rabbi Jacob. Mais Lucky Luke, vous êtes juif ?
Le train TER de destination de Brive-la-Gaillarde va entrer en gare voie 2. Éloignez-vous du bord du quai.
Une heure fêtarde à Brive-la-Gaillarde, car c'est aujourd'hui que s'ouvre la 35e foire du livre de la commune corrézienne, présidée cette année par Daniel Pénac. Chaque année, c'est la foire et au menu, un open bar, des rencontres chocs, des tables rondes chic, mais aussi un prix de la langue française décerné cette année à Philippe Forest. Et surtout des auteurs en veux-tu, en voilà. On attend notamment notre Goncourt du jour, Leïla Slimani, mais aussi le dandy dans le cou, Alain Mabancou, ou la papesse du roman pop, Amélie Nothomb, qui, quand il est question de champagne, n'est jamais la dernière à pointer le bout de son chapeau. Cheers. Jonathan Coe, le grand écrivain britannique, invité de Boomerang ce matin. Jonathan, comment ne pas vous faire réagir au prix Goncourt, la France et ses prix littéraires. Gallimard, qui est sacré, c'est votre maison d'édition également. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je suis très heureux pour mon éditeur.
Je suis dans une situation privilégiée, parce que je fais partie de l'intérieur de cette maison. Donc on m'envoie beaucoup de livres, je lis beaucoup de livres contemporains, je lis beaucoup de critiques, et donc j'ai ma propre idée de ce que je veux lire. Mais pour des lecteurs qui sont plus à l'extérieur de ce monde littéraire et qui sont face à un déluge de romans chaque année, je crois qu'il y a beaucoup de livres publiés en septembre et en octobre en France. Ces prix sont très importants pour guider un peu les gens en ce qui concerne comment trouver ce qui est important dans ce déluge d'écriture.
Vous avez la même effervescence, la même émulation dans la vie littéraire en Angleterre ?
Nous avons le Booker Prize, qui est l'équivalent du Goncourt, pour ainsi dire.
C'est
un peu différent maintenant, parce que dans une décision controversée il y a deux ans, ça a été ouvert aux écrivains américains.
Scandale.
Donc c'est le meilleur roman en anglais, en langue anglaise. Et cette année, ça a été décerné pour la première fois à un écrivain américain, Doughty, qui est un bon roman, bien sûr. Mais c'est vrai que on n'a pas un prix purement destiné aux écrivains britanniques. On ne l'a plus, ça.
C'est pas grave, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez la France, Jonathan Coe, elle vous a récompensé, elle vous adore, la France. Elle a récompensé aussi David Lodge ou Martin Amis, que l'on a tous les deux déjà reçus dans cette émission. Parfois, j'ai l'impression que les écrivains britanniques, ils ont presque plus la cote en France que dans leur propre pays. Qu'est-ce qui, à votre avis, chez vous, anglais plaît tant aux Français?
Je crois que c'est vrai. Les ventes de mes livres sont aussi importantes qu'elles le sont au Royaume-Uni, si ce n'est un peu plus.
Je ne
suis pas sûr que la France aime les écrivains britanniques.
C'est plutôt que les Français sont fascinés par les Britanniques. Ils lisent des gens comme David Lodge, Martin Amis, comme moi-même, pour tenter de comprendre ce puzzle, cette énigme qui est la mentalité britannique.
C'est aussi l'humour, peut-être quand même la satire, Jonathan Coe, une certaine forme d'autodérision aussi qui suppose, j'imagine, une certaine confiance en soi. Vous avez toujours eu confiance dans votre capacité à devenir écrivain, vous ?
Plus j'écris et plus je vieillis, plus c'est difficile l'écriture. Je crois que c'est en fait en raison du nombre de livres que j'ai derrière moi. Et ce roman numéro 11, ben, comme vous pouvez le deviner, c'est mon 11e. En tant qu'écrivain, je suis facilement fatigué. Et quand je trouve une idée, je me dis, ben, j'ai déjà écrit là-dessus et je la mets de côté parce que j'ai horreur de me répéter. Et je crois toujours qu'en vieillissant, le monde serait plus compréhensible, les choses se mettraient en place, il y aurait des modèles qui commenceraient à émerger. Et en fait, c'est le contraire qui se produit. Le monde devient de plus en plus compliqué, plus ambigu, change beaucoup plus vite. Et bien sûr, ça devient difficile d'écrire de ce point de vue-là. Si on compare numéro 11 avec mes romans précédents, c'est difficile. Vous savez, ces nouvelles de jeunesse sont pleines de certitudes adolescentes, alors qu'aujourd'hui, c'est un livre beaucoup plus difficile.
Je pense à un de vos personnages, là, dans numéro 11, justement, un personnage, il y en a pas mal, hein, qui se succèdent dans ce roman, elle s'appelle Val Doubleday, elle est chanteuse, et elle s'est fait remarquer dans Top of the Pops, qui était l'équivalent du Top 50 dans les années 80, depuis rien, son job de bibliothécaire est en train d'être supprimé, elle se retrouve à participer à une émission de télé-réalité dans l'espoir de relancer sa carrière, et c'est la catastrophe, elle peut plus se chauffer, elle est obligée d'aller à la banque alimentaire. Vous auriez fait quoi, vous, Jonathan Coe, écrivain, ça n'avait pas marché?
Quand j'ai débuté, je voulais avoir une carrière comme professeur d'université. C'est ce qui serait probablement produit. Mais j'ai pris une décision extrêmement courageuse lorsque mon premier roman a été accepté par un éditeur au milieu des années 90. Et j'ai abandonné tout ça. Et j'ai déménagé, je me suis installé à Londres, et je suis devenu écrivain à plein temps, ce qui était complètement fou, parce que j'étais payé très très peu d'argent pour mes livres.
Mais
c'est un luxe que les jeunes écrivains britanniques n'ont plus. Londres est devenu une ville tellement chère, le coût de la vie est devenu très cher partout de toute façon. Et je vivais dans un appartement à Londres qui me coûtait à l'époque 8 livres par semaine, ce qui est absolument impensable aujourd'hui. Et je pouvais vivre, écrire pendant 2 ou 3 ans, c'est pour quelque chose qui ne me coûtait quasiment rien. Comment est-ce qu'un jeune écrivain pourrait le faire aujourd'hui ? C'est absolument impossible.
La chance du succès que n'a pas eu cette Val Doubleday, votre personnage, Jonathan Coe, et en pensant à elle et à ce qu'aurait pu être sa vie si tout n'avait pas mal tourné, moi j'ai pensé à une chanson pas si ancienne, des Utones, une chanson très anglaise qui s'appelle Valerie. Vous êtes sur France Inter avec Jonathan Coe, vous écoutez Boomerang.
I'm
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est de taille moyenne, de corpulence moyenne, la mine rose, le cheveu gris-blanc, le regard bleu d'enfant, l'air un peu placide aussi, un phlegmatique plus que nonchalant. Il est anglais, évidemment, avec son polo gris à manches longues, pantalon foncé, passe-partout, l'air de bien cacher son jeu hein, quand même, Jonathan Coe, invité de Boomerang pour son 11e roman qui s'appelle Numéro 11. Dites-moi, quel roman est-ce que vous vivez? Quel numéro est-ce que vous visez? Combien de livres est-ce que vous aimeriez écrire si le 11e s'appelle Numéro 11, quel sera le dernier?
Je ne planifie pas l'avenir. La bonne chose avec l'écriture est qu'il n'y a pas de date limite pour prendre sa retraite.
Je deviens
très agité quand je n'écris pas. Et donc, quand que les gens veulent me publier ou pas, peu importe, je continuerai à écrire aussi longtemps que je pourrai tenir un stylo ou que je pourrai me concentrer sur un écran d'ordinateur.
Alors, 11 en l'occurrence, ça n'est pas seulement le numéro de vos livres écrits, c'est aussi le numéro qui structure votre intrigue, Jonathan Coe, depuis les 11 étages d'un immeuble souterrain jusqu'au 11 Downing Street, en passant par un bus numéro 11. Vous racontez sur 15 ans l'histoire de deux jeunes filles et de tous les personnages qui vont graviter autour d'elles. Alors, il y a les gens normaux qui souffrent de la crise, pour schématiser, et puis, de l'autre côté, il y a l'establishment conservateur qui en profite. Cet establishment qui ne cesse de taper sur le système d'aide sociale, qui accuse la gauche progressiste de favoriser la lesbienne noire, unijambiste et chômeuse, pour vous citer, un establishment qui méprise les déshérités et qui, faute de pouvoir agrandir leur maison, fait construire des sous-sols de 11 étages, donc. Il vous arrive de grossir le trait, quand même?
Un roman, c'est pas la réalité.
Les gens n'ont pas besoin que
la réalité soit le miroir de la réalité telle qu'elle est. Ils cherchent quelque chose qui soit une distorsion artistique qui leur permet de voir à travers le voile de la réalité ce qu'ils voient tous les jours. De le voir de façon un petit peu plus claire. Donc, je suis un écrivain comique qui veut divertir ses lecteurs. Et la caricature, le trait grossi est quelque chose, c'est une arme très très importante dans mon répertoire. Mais bien sûr, c'est très difficile de caricaturer la presse, les tabloïds britanniques, parce que c'est une caricature en soi-même. C'est plein d'autoparodies, si on veut.
Ça vous arrive de vous faire rire vous-même?
Me faire rire moi-même.
I laugh when I get the idea.
Ben, je rigole quand l'idée arrive. C'est vraiment tout au début du processus. C'est beaucoup plus difficile d'écrire des choses drôles que tout autre chose. Donc, après avoir pensé à une blague, ce qui se produit, c'est que je suis saisi par l'anxiété, l'angoisse. Est-ce que je pourrais traduire de mon cerveau à la page? Ça, c'est le problème. C'est tout l'art est là.
Je vous pose la question parce qu'en fait, dans votre roman, Jonathan Coe, justement, vous ne cessez de questionner notre rapport au rire. Et je vais lire un extrait de numéro 11 sur ce sujet, justement. Dans le domaine politique, l'humour est l'antithèse de l'action, pire que son antithèse, son ennemi juré. Chaque fois que nous rions de la vénalité d'un politicien corrompu, de la cupidité d'un gestionnaire de fonds de couverture et des élucubrations spécieuses d'un chroniqueur de droite, nous les dispensons de rendre des comptes. La colère légitime envers ces individus, celle qui pourrait mener à l'action, se libère alors, se dissipe dans le rire. Le public obtient exactement ce qu'il veut et ce qu'il achète. Un prétexte de plus pour suivre son petit bonhomme de chemin sans fragiliser ni mettre en cause son précieux mode de vie égoïste. Faire changer les gens en les faisant rire, c'est un objectif que vous avez pu avoir, Jonathan Coe. Est-ce que c'est un objectif auquel vous avez renoncé aujourd'hui?
Vous savez, les Britanniques sont fiers de leur tradition de la satire. La satire politique, qui est une tradition qui a été menée à son pinacle avec Jonathan Swift dans le siècle passé, et renouvelée dans les années 1960 avec Private Eye, un magazine, avec des shows à la télé ou à la radio, ou des comédiens tourner en ridicule les politiques.
Cette
satire a fait un bruit de fond pour la politique au cours des dernières années. Et beaucoup de gens, pas seulement moi, ont commencé à se poser des questions. Est-ce que ça fait une différence ou pas? Parce que ce qui est frappant, c'est que les politiques eux-mêmes sont très à l'aise avec ça. Ils se joignent au rire. Ils les encouragent. Et un de nos hommes politiques les plus célèbres, Boris Johnson, en fait, est tellement fort à la satire de lui-même qu'il en a fait une carrière politique. Donc le livre tente de poser ces questions-là. Est-ce que le rire face aux injustices politiques, c'est quelque chose d'utile ou pas? Les gens ont pensé pendant des années que Donald Trump était une grosse blague. Et maintenant, la blague est allée un peu trop loin.
Il faut lire absolument ce roman de Jonathan Coe qui s'appelle Numéro 11 et qui réfléchit sur ce qu'est que la satire, justement. Merci tellement d'être passé chez nous, Jonathan. Je rappelle que votre nouveau livre, donc Numéro 0, vient de sortir. Vous serez aussi à Brive-la-Gaillarde, il faut le dire. C'est important. La traduction est signée José Camoun. Merci aussi à votre traducteur aujourd'hui, votre interprète plutôt, Michel Zlotowski, toujours parfait tel qu'il est. Je remercie aussi toute l'équipe de Boomerang, Audrey Ripouille, à la réalisation, ainsi qu'Anne-Sophie Ladonne cette semaine, et Lola Costantini aussi qui a fait un petit tour par là, Valentine Chedebois, Pierre Martinery, Léonard Billot, Chouchane Djergaillan, toute mon équipe que j'aime tant. Et tout de suite, les médias de Sonia De Villers, juste après ça.
Il avait trouvé sa place, assis au chaud tout au fond de la classe, assoupi derrière son livre, lui qui se voyait vivre une autre histoire. Il faisait le minimum pendant qu'on se cherchait un uniforme, les mêmes chaussures et le même blouson, comme les grandes gueules de la pension. Mais si on pleurait à la maison, dès qu'un professeur haussait le ton, lui se foutait de l'autorité, de leurs conseils avisés. Quand il lui disait:
si tu veux réussir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, oui tu dois réagir. Contrôle ta samba.
Mais la samba, ça ne se contrôle pas. Deux années au pensionnat, agribouillé dans son agenda. J'étais pas assez intelligent pour le trouver intéressant. Puis le bac et les bancs de la fac, pour un boulot pourri à la Fnac. Un petit chef qui pensait changer le monde, a donné des ordres à la ronde. Et qui lui disait:
si tu veux t'enrichir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, ou bien sinon je te vire. Contrôle ta samba.
Mais la samba, ça ne se contrôle pas.
Contrôle ta samba, Séverin et Philippe Catherine sur France Inter, et c'est l'heure de l'instant M, l'instant média avec Sonia De Villers. Vous m'entendez, Sonia?
Eh oui, c'est le week-end pour vous, Augustin.
Ouais, bon week-end à lundi.
Ciao, à lundi.